d'un côté avec ses alliés à travers un programme qui s'appelle le programme Artemis. Et puis de l'autre côté, il y a le bloc Chine avec ses alliés, en particulier la Russie. Et donc la compétition, c'est pareil, les mêmes objectifs, donc deux objectifs. Alors c'est retourner sur la Lune, mais cette fois-ci pour y rester, c'est mettre une base, type une base comme on peut avoir l'ISS, mais sur la Lune, avec toutes les complexités qu'on pourra aborder. Et puis ensuite, c'est d'aller sur Mars. Alors c'est le rêve d'Elon Musk, hein. Pour lui c'est même plus un rêve, pour lui c'est fait, mais c'est d'aller faire la première exploration habitée sur Mars. Et on est en pleine compétition, et il y a un consensus aujourd'hui, et on va essayer de vous le présenter aujourd'hui, c'est que dans les deux cas, l'énergie nucléaire est indispensable pour réussir ces deux challenges. Et donc on va vous emmener, et on l'a appelé Journey to Mars, donc un voyage vers Mars, et on va faire ce voyage ensemble, on va essayer de vous accompagner durant ce voyage. On va partir à bord d'une fusée Atlas 5, donc on est en 2011, et la mission s'appelle Curiosity. Peut-être que tu peux nous dire un peu plus sur cette mission Curiosity.
Alors, oui, moi, on a choisi Curiosity parce qu'en fait, c'est une mission qui est une mission qui était une coopération entre le CNES et la NASA, à laquelle j'ai beaucoup participé, et qui d'ailleurs a été une mission qui a été difficile, elle a rencontré quelques difficultés avant le départ, heureusement pas après. Donc, j'ai un souvenir très vif. D'ailleurs, j'étais, vous verrez à la fin, lorsque vous verrez la salle de contrôle de la NASA, lorsque Curiosity est posé avec succès sur Mars. Donc j'étais là-bas, dans l'équipe, avec vous verrez, les Blue Shirts. Et ça reste pour moi, effectivement, une émotion comme celle que vous verrez tout à l'heure, des collègues captés par la vidéo. Donc oui, Curiosity, je connais bien. C'est un robot déjà très évolué, qui a beaucoup besoin d'énergie, parce que son but était d'explorer Mars, donc il se balade partout, et qu'il aille vraiment chercher des roches qui sont celles qui pouvaient nous éclairer sur des éventuelles traces de vie, c'est-à-dire des molécules qui pourraient être des résidus de traces de vie sur Mars. De l'eau, il y en a, ça on sait, mais on n'a pas encore trouvé de traces de vie biologique. Et donc, comme on la cherche, c'est quand même une aiguille dans une grosse boule de foin, il fallait pouvoir aller chercher des endroits où les astrobiologistes disaient, ou les spécialistes de géologie disaient, c'est peut-être là qu'on pourrait trouver. Et donc, il fallait aller chercher et analyser en détail ces roches. Ce que faisaient les robots précédents. Mais le problème, c'est qu'on va quelque part, à l'aveugle, on prend un bout de roche, on passe beaucoup de temps à l'analyser, on voit des résultats, mais bon, c'est pas ça qu'il fallait, donc on a perdu son temps. Donc là, l'intérêt de l'UDT, c'est qu'il a un instrument qui est un instrument français, il en a plein d'autres d'ailleurs, on regarde, mais celui-là s'appelle le sabre laser, c'est un laser qui vient vaporiser la roche, et par spectro, on sait si cette roche est interdite ou pas. Donc finalement, on ne déplace pas le robot, on va tirer un peu partout dans les endroits qui paraissent intéressants. D'ailleurs, c'est fait depuis Toulouse, pour le compte de la NASA. Et comme le jour n'est pas, n'a pas exactement la même durée, il est proche de 24 heures, mais pas tout à fait, 40 minutes de plus, les gars de Toulouse, ils ont une montre spéciale donnée par la NASA, qui est une montre à l'heure martienne. Donc c'est là-dessus qu'on se règle avec la NASA pour savoir quand on bouge le robot, où on va et où on tire. Et donc avec ça, on a pu effectivement aller chercher des endroits intéressants à investiguer, mais il n'y a toujours pas de traces de vie sur Mars. Dieu, d'accord, je ne crois pas.
Alors, je vous propose de lancer ce voyage, rester bien assis, attaché aux ceintures, et puis on va voyager et vivre.
T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, main engine start, 0, and lift off of the Atlas V with curiosity. See?
Oui, donc on allait voir l'article du monde. Ça va vous dire que, évidemment, en termes de sûreté, cette phase-là est évidemment particulièrement importante, puisqu'il faut que la sûreté nucléaire soit totalement garantie, tout le temps, évidemment, mais en particulier dans cette phase, sachant qu'il peut y avoir un échec du lancement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un arrêt de la production, mais il peut y avoir une explosion du lancement. Donc, il faut absolument empêcher la dissémination de la matière radioactive, donc s'il y a la matière radioactive à bord, de façon à garantir la sûreté nucléaire et l'environnement pour les populations. Évidemment, vous voyez que selon, vous verrez tout à l'heure, on va parler de quantité de matière nucléaire différente selon le type de source d'énergie dont on parle. Donc vous verrez, il y a des sources d'énergie qui ont très peu de matière nucléaire à bord, et donc ça c'est beaucoup plus facile, je dirais, à confiner. Et puis il y a le réacteur nucléaire, où là effectivement il faut des dispositions de sûreté particulières au niveau du réacteur, du grand fusil et autres pour pouvoir garantir la sûreté.
Conclude of the planetary puzzle about life on Mars.
Donc, dans cette phase de lancement, ce sont les boosters, vous voyez, tout autour, qui en fait font la poussée maximale. Le moteur principal, c'est moins l'arrachement, si je veux dire, à la Terre. Là, je pense que les boosters vont être largués dès qu'ils sont vides, parce que bien entendu, il faut évacuer la masse, hein, tant qu'on peut. Donc, dès qu'ils ont terminé leur rôle, on les jette. Sur Mars. Par contre, les synthèses du Mars sont très réalistes, comme vous le verrez. Elles sont évidemment très proches de la réalité, y compris en couleur et tout. Donc voilà. On l'a, mais il y a des justes.
Donc les fusées ont souvent deux étages, donc on est toujours là sur le premier étage. Avec. On a largué les boosters de poudre, et là on est sur un réacteur qui est plutôt propergol, donc hydrogène, oxygène, ou kérosène, même c'était à l'époque.
C'était une chose là. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que le son est bon? Oui.
De la vidéo aussi. Là on va ensuite libérer la coiffe parce qu'on sort un peu de toute la phase de frottement. Et donc on toute cette partie-là, donc on est en train de passer, là on va arriver à une centaine de kilomètres d'altitude et où on est beaucoup moins soumis à l'atmosphère, mais on est toujours soumis à la gravité.
La coiffe est là pour protéger ce qu'il y a dessous, charge-t-il, frottement de mer. Quand on peut vraiment le dire, à 100 km d'altitude, il n'y a plus d'air, il y en a bien sûr très peu, donc il n'y a plus de danger. Il faut vraiment protéger la pérone, et donc on enlève la masse. Il faut virer la masse au maximum pour pouvoir effectivement avoir le meilleur rendement de la propulsion.
Voilà, c'est bien sûr la coiffe.
C'est comme les ailes d'un oiseau.
Voilà, on passe en image de synthèse.
The main booster runs out of fuel. 4 minutes 28 seconds, the main booster is separated and it will fall back to Earth.
C'était en temps réel, hein, on est à 3 minutes. Et ça, c'est important. C'est le deuxième étage. Le deuxième étage, c'est lui qui va donner la vitesse finale de notre objet.
This is called the coast phase. We'll stay here for about a half hour. It's a good time to check things out and make sure that everything.
Donc là, on va rester en orbite autour de la Terre, 150 km. Et puis ensuite, on pousse 8 minutes, vous avez entendu? Et donc là, on donne toute la puissance possible pour sortir de l'orbite terrestre et ensuite de libérer à 40 000 km/h notre objet. Donc, cette phase est décisive parce que vous comprenez que l'objet, il n'a plus rien. On vient de lancer une balle de tennis à 40 000 km/h, et maintenant, mais on est à 150 km de la Terre, et il nous reste donc 150 000, on est à 80 millions de kilomètres de Mars. Et encore, ça va bouger tout ça, parce que vous avez vu, vous aurez le petit schéma après. Et donc, cette vitesse qu'on va séparer, c'est la plus importante, parce qu'après, c'est celle qu'on va garder pour faire le trajet jusqu'à Mars. Et donc vous verrez que quand on va parler de nucléaire, c'est cette vitesse-là sur laquelle on va travailler, et c'est comment aller sur la plus haute vitesse à ce moment-là. Tu voulais rajouter quelque chose? Juste, vous le verrez après, mais... Donc cet objet a juste quelques petits propulseurs qui serviront juste à corriger la trajectoire, parce que à 150, à 70 millions de kilomètres de là, évidemment, il suffit d'un petit angle pour rater la cible. Donc la seule chose qu'il faudra faire sur ce trajet, c'est de corriger la trajectoire. On va vous expliquer aussi un peu comment ça fonctionne et pourquoi c'est 8 mois de trajet.
The best time to launch to Mars is about every
11
the Earth to get around the Sun, it takes exactly 1 year, right? No surprises there. Mars, on the other hand, takes almost 2 years to get around the Sun. The best time to launch
is right before Mars.
This is called a launch window.
It happens about every 26 months. Donc son année à elle, c'est en gros 2 ans terrestre.
Donc vous comprenez qu'il va falloir trouver évidemment la durée va dépendre à quel moment on va le lancer, puisque la distance va dépendre à quel moment on va le lancer et la vitesse. Et donc il va falloir bien régler les temps, ou en tout cas les launch windows, les fenêtres de tir, à quel moment on va lancer.
On a vu la conjonction là, le moment où elles sont les plus proches. Quand elles tournent, il y a un moment où effectivement elles sont toutes les deux du même côté, donc en gros sur un rayon solaire. Là, elles sont plus proches.
Là, on est à la launch window.
Voilà. Et donc ça.
Ah oui. Là, on est à l'approche la plus fine, mais évidemment, en 8 mois, tout ça va bouger. Mais là, on est donc le Terre. Terre-Soleil, on est à 150 millions de kilomètres, et Mars-Soleil, là, on est à 230 millions de kilomètres.
Donc, en fait, ce qu'on fait toujours, c'est on pourrait faire aussi comme ça de l'opposition, mais c'est plus compliqué pour le voyage. C'est plus facile pour le séjour, mais c'est plus compliqué pour le voyage. Donc, on le fait dans cette configuration-là, ce qui veut dire que c'est tous les 2 ans. Le lancement suivant, ce sera peu de temps après. Et donc, vous voyez que si vous passez, je suppose qu'on accélère et qu'on arrive à faire en 6 mois le voyage, par exemple. Si vous mettez 6 mois pour y aller, ça veut dire que vous allez aussi mettre 6 mois pour revenir, mais il faudra que vous restiez 18 mois sur Mars. Donc, les besoins d'énergie sont là. Il faut de l'énergie pour accélérer et décélérer. Donc il faut de l'énergie pour le voyage, il faut de l'énergie avec une base spatiale installée pour rester 18 mois, si on prend le Mars. Donc avec l'énergie qui permet de vivre, qui permet de travailler, qui permet de faire le boulot qu'on veut faire là-bas, éventuellement de refaire du carburant et autres pour le voyage retour. Et puis après, il faut de nouveau de l'énergie pour pouvoir rentrer. Et donc on voit que ce sont ces besoins d'énergie-là qui en fait n'apparaissent aussi importants que dans le cas de Mars, pas dans le cas de la Lune. La preuve, c'est qu'on a déjà été sur la Lune et les petites sources. Donc, ils ne sont pas des réacteurs de fission nucléaire, mais des produits radioactifs, on en parlera. C'était suffisant pour aller sur la Lune et y rester quelques jours. Évidemment, sur Mars, ça ne colle pas. C'est pour ça que, l'énergie nucléaire, qui a toujours été un peu là dans ces radio power sources, aujourd'hui revient avec un besoin beaucoup plus grand pour la conquête de Mars.
Et la complexité du voyage, c'est pourquoi on veut réduire. Parce que quand on va envoyer des astronautes, si on en envoie, ça va être la dose radiologique qu'ils vont recevoir. Et il faut savoir que déjà la dose permise pour les astronautes est déjà beaucoup plus importante. Hein, donc on va parler pour nos travailleurs de 20 millisieverts par an. On accepte jusqu'à 600 millisieverts pour les astronautes. Ce qui est quand même beaucoup plus, mais et donc ils ne peuvent pas faire de proposition pour ça. Un voyage sur Mars, il faut savoir que non, il n'y a pas de protection du champ magnétique terrestre, donc on est soumis à beaucoup plus de radiation pendant le voyage. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir réduire ce voyage-là pour ne pas exposer au minimum nos astronautes. Alors un peu de physique. Alors, on m'a expliqué qu'en maths, suite maths fait, normalement, on connaît la quantité de mouvement. Donc, hein, c'est bon. Donc, voilà comment on va se déplacer dans le vide. Alors, c'est pas inné. C'est un peu comme ce monsieur qui est sur son bateau. Il embarque des cailloux et il va juste. La seule force qu'il va trouver, c'est la conservation de la quantité de mouvement. Donc, ça veut dire qu'il va exécuter une force d'un côté, puis il va avoir une réaction de l'autre. Et il va le faire en larguant de la matière. Et plus il va larguer vite cette matière-là, et bien plus il va avancer. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans l'espace. Alors, c'est un peu plus complexe quand on est à la surface de la Terre pour arriver en orbite. Hein. Il y a un peu plus d'efforts à y mettre, mais une fois qu'on est en orbite, c'est comme ça qu'on va se déplacer. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que vous voyez, c'est qu'à chaque fois, comme il y a plus de frottement, à chaque fois qu'on va avoir une accélération, et on va augmenter son delta V. On va augmenter sa vitesse. Et l'objectif, c'est d'avoir le maximum de vitesse pour atteindre, pour réduire finalement notre temps de trajet. C'est ce que vous voyez sur ce petit schéma, et c'est ce que vous voyez illustré, alors, quelques équations. Mais, donc il y a l'équation de Tsiolkovsky, alors vous voyez qu'elle est quand même assez ancienne, qui dit pour les moteurs thermiques la vitesse d'éjection, du gaz qu'on va extraire, et puis qui est liée aussi aux masses initiales et finales de notre fusée. Donc c'est très lié au carburant qu'on va embarquer. Tu veux en dire deux mots?
Oui, donc Tsiolkovsky, c'était fin du 19e siècle, hein. C'est un russe assez génial. Physicien, et il est le père de ce qu'on appelle l'astronautique. D'ailleurs, faire des fusées, partir dans l'espace. Il a inventé d'ailleurs beaucoup de choses qui sont toujours utilisées aujourd'hui, et moi j'aime beaucoup ce qu'il a dit. Les gens s'étonnaient, mais pourquoi vous voulez absolument quitter la Terre? Et il répondait, mais la Terre est notre berceau, mais qui peut rester toute sa vie dans son berceau? Et il a été porté par ça et il a inventé et développé l'astrologie. Donc ça c'est MDV, égale MDE, et puis l'intégration c'était ça. Ouais.
Et donc c'est la base. Et avec cette équation, on fait à peu près tout. Euh, et, Et donc, il faut travailler sur cette vitesse d'éjection de gaz. Et quand on regarde sur les moteurs thermiques, donc c'est-à-dire avec une tuyère qui va éjecter des gaz, ben, la vitesse d'éjection elle va être proportionnelle à la racine d'une équation que vous voyez là. Et les deux termes qui sont importants, c'est la température d'éjection et la masse molaire du gaz qui va être éjecté. Et donc toute la beauté avec le nucléaire, par rapport au chimique, alors c'est qu'on va réussir à maintenir des températures assez importantes. Donc on va avoir des températures de sortie de cœur qui sont largement au-delà des réacteurs qu'on connaît, mais qu'on va réussir à atteindre environ 2500 degrés. Et on va éjecter des atomes d'hydrogène. Et le dihydrogène est plutôt léger par rapport à un mélange dioxygène dihydrogène qui sera un propergol classique liquide. Et donc juste avec ce rapport, même si en réaction chimique, combustion chimique, on va monter à 3000-3500 degrés, ben là, avec nos 2500 degrés et ce rapport qui est de 2 à 15 en termes de masse molaire, et ben on trouve tout de suite une vitesse d'éjection qui va être pratiquement le double. Et grâce à cette vitesse d'éjection, et ben on va réussir, pour une même masse embarquée, ce que vous voyez là, donc masse unique finale, c'est la masse embarquée finalement, c'est le carburant que vous emportez. Et ben pour une même masse embarquée, vous allez avoir des vitesses qui sont plus importantes. Vitesse plus importante, et ben évidemment, vous allez aller plus vite vers Mars, et puis Mars aura moins de temps d'aller loin, et donc vous allez vous retrouver à réduire votre temps de trajet de 2 à 3. Donc aujourd'hui, on parle de 8 mois. L'objectif, c'est de descendre à environ 3 mois de trajet pour aller sur Mars. Ce que vous voyez là, c'est quand même c'est la même chose que le deuxième étage dont je vous ai parlé. Donc, c'est un burst. Ça veut dire que dans les 30 premières minutes du vol, on va faire toute la propulsion. Et là encore, je vous en parle parce qu'on va passer après sur une autre technologie. Mais donc là, on reste à peu près sur la même phase. Un premier étage, un deuxième étage qui va propulser, qui va pénétrer un delta V et qui va nous emmener vers Mars. Ça s'appelle Nuclear Thermal Propulsion. Ce que vous voyez là, c'est un projet américain qui militaire principalement, qui en ce moment est dans le domaine. Donc voilà à peu près ce que c'est un réacteur. Donc vous reconnaissez un réacteur, en tout cas un cœur de réacteur au milieu. Mais ce qui est différent de nos réacteurs qu'on connaît, c'est un réacteur à circuit ouvert. C'est-à-dire qu'on va prendre du gaz cryogénique, donc très froid, on va le réchauffer, et puis ensuite on va le passer dans le cœur du réacteur, donc on va avoir un delta T entre quelques degrés jusqu'à 2500 degrés au sein du cœur du réacteur. Et donc il va juste chercher. Et donc c'est quelque chose, c'est la Ferrari du réacteur, mais c'est une technologie quand même qui est plutôt simple. Mais en revanche, dans nos réacteurs, notre caloporteur, donc notre circuit, va servir aussi à réguler notre réacteur. Là, ce n'est pas le cas puisqu'on éjecte de l'eau. Ça donne une problématique aussi pour ce qui est essai sur Terre. Hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun réacteur sur Terre où on a le droit d'éjecter les gaz qui passent au cœur du réacteur.
En fait, il y a un réacteur comme ça qui a fonctionné dans les années 50 aux États-Unis, à une époque où c'était la course à l'espace et au nucléaire. Donc les Américains, comme bien connu, ont absolument tout essayé comme technologie. Et au Nevada Test Site, là où ils font les essais nucléaires, d'armes nucléaires, ils ont également testé plusieurs types de réacteurs, dont un réacteur spatial, basé sur. Je ne sais pas cette technologie-là, celle-là, elle est moderne, mais c'était le même principe. C'est-à-dire, le cœur du réacteur chauffe le gaz, et en plus, il y a une cuillère. Comme un réacteur, c'est le réacteur qui chauffe, ce n'est pas la combustion. Et en fait, on le voit, il n'a jamais été utilisé, simplement parce qu'on n'en avait pas besoin. Et c'est très lourd, en plus, hein, quand vous posez des problèmes, je dirais, au décollage. Donc, il a été abandonné, mais la technologie a été prouvée. Et on le voit, il est toujours là, il n'est même pas démantelé.
Et vous voyez donc sur la gauche, qu'est-ce qui se passe en Europe hein, sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, c'est plutôt les États-Unis qui regardent ces projets. En Europe, il n'y a que des projets d'études, on commence à regarder quel serait un acteur européen. Donc il y a des pré-études, on est très très préliminaires. Vous voyez qu'on a participé avec, pour l'ESA, pour l'European Space Agency, avec Ariane Group et le CEA, à une roadmap qui pourrait nous donner dans 15-20 ans la capacité à développer ce type de réacteur. On parle de l'électrique. Alors, quelque chose qu'on connaît mieux, mais qui n'est pas trop... qui est un peu plus compliqué pour la partie spatiale, c'est de se dire, on peut faire la propulsion différemment, et ce qui, depuis quelques années, hein, c'est d'utiliser des réacteurs et des propulseurs électriques. Et à partir du moment où c'est des propulseurs électriques, ben, il suffit d'une source d'électricité. Et l'idée, qui est l'idée de ce projet-là, c'est d'avoir un réacteur nucléaire qui produit l'électricité à bord. Et dans ce cas-là, on aurait donc une source, en tout cas pendant très longtemps, une source d'énergie à bord. Attention, il faut quand même savoir que dans l'espace, il faut quand même embarquer ce qu'on va rejeter. Parce que si on n'a plus rien à rejeter, on n'avance plus, on reste avec sa vitesse. Ça ne veut pas dire que c'est une source infinie. Il faut quand même, de toute façon, avoir du gaz à rejeter. C'est ce que vous voyez en propellant. Mais en revanche, d'avoir un réacteur embarqué permettrait d'alimenter en continu. Et là, différemment de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça serait un vaisseau en fait, qui garderait un moyen de propulsion et d'accélérer petit à petit pendant très longtemps. Et qui permettrait cette fois-ci d'arriver à des vitesses encore plus importantes. Ce que vous voyez là, les vitesses d'éjection, on est toujours sur la même règle. La vitesse d'éjection a toujours son importance pour accélérer. Les vitesses d'éjection, on arrive à des choses vers 30 000 mètres secondes. Pourquoi ? Parce qu'on va prendre un gaz, cette fois-ci, il n'a pas besoin d'être léger, il peut être lourd, mais l'objectif, c'est de pouvoir le ioniser. D'ailleurs, c'est même intéressant qu'il soit lourd. Et donc, c'est de l'ioniser et de le garder en suspension dans un champ magnétique et puis de l'expulser avec un champ magnétique. Et là, on arrive à monter à des températures très importantes et puis à des vitesses très importantes d'éjection. Donc ça, c'est ce que vous voyez là, c'est les thrusters. Donc, c'est des propulseurs électriques.
Cette propulsion électrique est commerciale. Hein. La plupart des satellites en sont équipés. Ça a été notamment une révolution pour les satellites géostationnaires qui vont à 36 000 km en orbite. Donc, il y a une grosse phase de transfert d'orbite entre l'orbite terrestre, qui est donc la fusée au départ, on place le satellite sur une orbite donc de transfert. Et ensuite, par sa propre poussée, le satellite gagne une orbite donc de 36 000 km, une orbite circulaire équatoriale. Et ce sont des propulsions électriques qui maintenant souvent font ça, y compris pour les très gros satellites. Ça veut dire que cette poussée, elle est très efficace. Il y a une chose, c'est que le temps de transfert est très long par rapport à la propulsion chimique, où à ce moment le satellite, lui, embarque effectivement cette ergole, donc il est plus lourd, donc il y a moins de masse possible pour la charge utile. Mais par contre, on gagne en beaucoup plus vite. Donc ça, c'est un trade-off économique de la part des, aussi bien pour le coût, je dirais, d'attente d'être sur orbite et donc de commercialiser, ou par rapport au coût du satellite qui est plus petit, plus léger et moins cher. Et donc aujourd'hui, cette propulsion électrique, elle est vraiment devenue très basique. Hein. C'est vraiment une propulsion de référence pour les satellites. Et là, l'idée, c'est évidemment de la doper avec une source électrique beaucoup plus puissante que ce qu'on a dans les batteries à bord des satellites ou leur panneau solaire qui les recharge grâce à l'énergie nucléaire et donc de faire de la propulsion pour un vaisseau.
Donc là, on retrouvera des réacteurs qu'on va voir ensuite, mais c'est des réacteurs électriques à haute température. Ce que vous voyez d'intéressant là, sur ce schéma, c'est les panneaux métalliques. La problématique dans l'espace, c'est d'évacuer l'énergie résiduelle. Quand on va convertir avec un réacteur nucléaire, on ne convertit pas toute la température en électricité, classiquement, hein, pour tous les sites thermiques. Et donc, toute une partie va devoir être éjectée. Et dans l'espace, on n'a pas d'air. Donc, Donc, classiquement, sur Terre, on va utiliser la convection, soit de l'air, soit d'une source froide, de l'eau. Mais dans l'espace, la seule chose qu'on a, c'est la radiation. Donc, on va mettre des grands panneaux, mais il faut des grands panneaux pour pouvoir évacuer cette chaleur. Il faut des grands panneaux, mais il faut aussi une température importante, parce qu'à chaque fois, il faut des grands deltas de température. Donc, on va se rapprocher de types de réacteurs, pas exactement ce qu'on a sur Terre aujourd'hui, mais les réacteurs dont on parle aujourd'hui sur Terre, qui s'appellent les réacteurs haute température. Et c'est exactement la même chose. Et donc là, on sera principalement sur des réacteurs haute température, refroidis à gaz, et puis ensuite, la chaleur évacuée par ces panneaux magnétiques. Voilà. Donc, propulsion, deux typologies de réacteurs. On va peut-être s'accélérer. Alors, Mars. Une fois qu'on est sur Mars, on a déjà fait un trajet. Alors, vous avez dit, c'est pas exactement comme ça pour l'instant, mais donc, l'objectif, évidemment, si on reste sur Mars, c'est d'avoir l'énergie. L'énergie pour produire de l'oxygène, de l'hydrogène, et aussi de l'ergol, peut-être pour repartir, si on ne l'a pas embarqué, parce que déjà, il a fallu venir jusqu'ici. Et donc, deux sujets importants, qui vont être la mobilité sur les Mars, on va revenir sur notre engin Curiosity, sur notre rover, et puis une source d'énergie. Alors, par chance, on a du soleil sur Mars, un peu moins puissant que sur la Terre, mais on peut avoir des panneaux solaires, sauf qu'on a les tempêtes partielles. Donc, les tempêtes de sable couvrent ces panneaux, donc il faut trouver un système de nettoyage, forcément. Mais l'idée, c'est quand même de mettre un réacteur que vous voyez avec ses ailes déployées, tout au fond à droite. Donc, et là encore, on va parler de deux systèmes. Alors là, je reviens sur un système historique. Donc, je vous ai parlé de la propulsion, maintenant, c'est la fourniture d'électricité. Qu'est-ce qui est embarqué à bord de Curiosity? On revient sur Curiosity, c'est ça. C'est ce que vous voyez là, avec ces petites ailettes. Ça s'appelle un radioisotope power system. On peut l'appeler pile radioisotopique. C'est les petites capsules rouges que vous voyez qui sont embarquées. Et là, c'est des radioisotopes. Deux types de radioisotopes, principalement le plutonium-238. Aujourd'hui, on travaille sur d'autres radioisotopes. Les radioisotopes, c'est des matières qu'on a irradiées et qui vont, pour revenir à un état stable, dégager de l'énergie. Et donc, elles vont dégager des radiations. Alors, on va essayer de prendre et suivant les matières, les radiations vont être différentes. Et le plutonium-238 ou l'américium, l'intérêt, c'est qu'ils émettent des radiations alpha. Les radiations alpha sont plutôt des radiations qui sont des atomes d'hélium et qu'on peut arrêter avec la main. Donc, ce n'est pas des radiations très importantes, mais l'intéressant, c'est que ça va faire beaucoup de chaleur. C'est ça qu'on va encapsuler, c'est ça qu'on a depuis les années 60 à bord de que les États-Unis ont lancé pour toutes les sondes qu'ils ont utilisées jusqu'aux sondes Voyageurs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la sonde Voyageur, qui est l'objet le plus loin lancé par l'homme. Et ça vient de sortir du système solaire et c'est toujours en train de communiquer avec la Terre. Pourquoi? Parce que ils ont un RPS à bord qui permet de fournir de l'électricité. Donc, de façon assez simple, ces radioisotopes, on va les mettre dans des capsules, ça va chauffer, et grâce à un effet que vous pouvez trouver un peu dans vos frigidaires, dans les frigidaires d'hôtel, classiquement, ou dans des petits frigidaires de camping-car, c'est l'effet Peltier. L'effet Peltier, c'est quand on va sur des thermocouples, quand on va mettre un courant électrique, on va avoir du froid d'un côté et du chaud de l'autre. Si on le renverse, c'est l'effet Seebeck. Et donc, avec un delta de température, on se fait fabriquer de l'électricité juste en mettant ces thermocouples. Ce n'est pas très très efficace, mais en revanche, ça marche. Et c'est ça qu'on va faire donc, sur les radioisotopes pour le système. Vous le verrez sur Curiosity. Ça, c'est la première source. Alors, juste pour vous dire qu'est-ce qui se passe en Europe, comme tout à l'heure. Donc Framatome est intégré maintenant dans un programme européen parce que l'Europe n'avait pas accès à ces radioisotopes pour système jusqu'à, quoi, en tout cas, toujours pas. Et les Anglais ont lancé un design supporté par l'European Space Agency de radioisotopes power system basé à l'américain. Et depuis cette année, donc Après la marque Framatome Space, on a travaillé et aujourd'hui on travaille avec les Anglais pour justement pouvoir lancer ça. Un objectif, lancer un rover européen sur Mars qui s'appelle Rosalind Franklin, une mission ExoMars qu'on espère qu'il va perdurer, qui devrait partir en 2028. Et puisque vous voyez là, c'est la contribution de l'Europe à Artemis, donc le projet américain, qui est d'avoir un atterrisseur sur la Lune. Et voilà, donc aujourd'hui, ça existe depuis les années 60, mais finalement, il n'y en a pas beaucoup qui ont accès à cette source d'énergie. Et donc, l'objectif, c'est vraiment en Europe de pouvoir le faire. Et puis, il faut un réacteur. Il faut un réacteur, et aujourd'hui, ça n'existe pas bien, les réacteurs spatiaux. Donc, principalement, il y a des projets aux États-Unis. En Europe, c'est balbutiant, on est plutôt sur le stade d'étude. Qu'est-ce que c'est un réacteur? Alors, il faut imaginer donc une puissance de réacteur de 40 kW électriques. 40 kW, chez vous, vous avez normalement entre 6 kVA, alors c'est pas exactement pareil, mais 6 kVA, 9 kVA, 40 kW, ça va, on va pouvoir être dans 8-9 maisons, alimenter 8-9 maisons. On considère que sur la Lune ou sur Mars, ça peut alimenter 4 astronautes, une base pour 4 astronautes. Donc 40 kW électriques, il faut à peu près 10 kW pour vivre et faire quelques expériences. Donc c'est pas beaucoup, c'est tout petit. Un EPR, c'est 1600 MW, donc 40 000 fois plus. Donc réduire ça, réduire un EPR sur un réacteur qui puisse rentrer dans une fusée, donc 5 à 6 mètres de diamètre, 5 à 6 mètres de haut, et puis surtout limiter la masse. Donc on est plutôt sur des masses où on va viser moins de 10 tonnes. Je ne peux pas vous dire la masse de... J'avais essayé de faire l'exercice de mettre un générateur de vapeur, alors c'est une des parties du réacteur nucléaire, dans une coiffe, ça ne rentre pas dans une coiffe d'Ariane. Et puis ça fait 600 tonnes, donc on est loin du compte. Donc, voilà ce que c'est un réacteur spatial, ou ce que ça pourrait être. Les premières études, c'est ça. Un petit réacteur avec un cycle Brayton. Alors un cycle, c'est qu'on va prendre le gaz qui passe dans le réacteur, on va le faire tourner, passer dans une turbine pour faire tourner un alternateur en A, ce que vous voyez. Et puis ensuite, on va le refroidir et puis on va le faire passer dans un compresseur pour qu'il soit recomprimé et qu'il repasse dans... Donc un cycle Brayton classique, mais quand c'est classique, déjà il va falloir aussi le faire en gravité, c'est pas si simple, sans gravité. Et puis vous voyez aussi les panneaux radiatifs où il va falloir évacuer 70% de la chaleur qu'on a dans notre cœur de réacteur. Et ça c'est pas simple aussi. Et tout ça on va le faire de façon très compacte. Donc vous voyez à peu près un réacteur et on va utiliser, donc là encore c'est un réacteur haute température. Haute température pourquoi? Parce que on a une très bonne inertie, mais en plus, on va mieux évacuer notre chaleur résiduelle. Et ça, c'est toujours le gros sujet. Les combustibles qui sont envisagés, par chance, et c'est ce qu'on essaie de pousser aussi, c'est qu'il y ait des points communs avec les réacteurs qui sont développés sur Terre. Et donc, un des candidats, ça serait des combustibles encapsulés, donc c'est un peu différent que les réacteurs qu'on a aujourd'hui au pressurisé. Mais c'est des combustibles très sûrs, parce que l'uranium est déjà encapsulé dans trois couches qui va permettre de limiter le rejet des produits de fission et donc les radiations ensuite. Donc on va faire ces combustibles, on va faire un cœur, ça s'appelle un compact. Et comme ça, on peut faire un combustible de la forme qu'on veut, avec les canaux qu'on veut, pour pouvoir le refroidir. Donc c'est ce que vous voyez au milieu. Et puis ensuite, on va le mettre et on va surtout le protéger, parce qu'on va mettre des protections pour les radiations. Et ensuite, on va l'intégrer dans un système complet. Voilà.
Cette technologie des réacteurs à gaz à haute température a fonctionné sur Terre, là, qui ont... pas aujourd'hui HCL qui a détrôné les réacteurs à eau pressurisée, mais c'est quelque chose qui va revenir. Je ne pense que ça va revenir pour d'autres applications. Vous les avez en particulier soit dans des SMR, des Small Modular Reactors, ou aussi dans les MMR, des Micro Modular Reactors. Et nous sommes plutôt du côté des MMR, c'est-à-dire des Micro Reactors, hein, comme l'a expliqué Grégoire. Donc cette technologie-là, elle fonctionne, elle a été prouvée. Il y a de gros progrès à faire, en particulier les combustibles trio, là, est un très gros progrès. Technologie maîtrisée. L'intérêt, budget moins, c'est que c'est quasiment un curseur. Vous pouvez très bien avoir les micro-réacteurs comme ceux dont on parle là. On passe à rien. Celui qui est à bord, ça c'est le Fischer Surface Bohr, mais c'est le même type de réacteur que vous pouvez avoir à bord pour faire l'énergie électrique de la production électrique que vous avez vu tout à l'heure. Et vous pouvez l'avoir aussi sur Terre. Et vous pouvez, en plus, ça tient dans un conteneur. Dans un compteur, vous pouvez le changer sur un camion, le déplacer. Donc ce sont des outils qui sont, donc, tout ça c'est linéaire, hein, la dimension de la fission, et donc vous pouvez très bien, avec les mêmes technologies, avoir des réacteurs qui vont depuis toute petite puissance jusqu'à des puissances déjà sérieuses de mégawatts. Donc cette technologie, il y en a d'autres, hein, c'est pas du tout la seule, il y en a beaucoup d'autres. Celle-là est celle qui nous intéresse le plus.
Je propose qu'on finisse le trajet, parce qu'on était devant l'arrivée de Curiosity sur Mars.
Alors, est-ce qu'on va s'écraser sur Mars ou pas? C'est ça, c'est toujours très très difficile. Hein. Il y a eu beaucoup d'échecs sur Mars avant de réussir. Hein. Donc, à chaque fois qu'on va se poser sur Mars, c'est très très compliqué pour le tas de raisons. L'atmosphère est très ténue, hein. C'est 6 millibars, hein. La densité de la pression atmosphérique terrestre, c'est du CO2, hein, essentiellement l'atmosphère. Donc, l'arrivée sur Mars, c'est pas simple. Hein, c'est pas simple.
Landing on the surface of Mars is nothing short of intense. They call this EDL, or entry, descent, and landing, often nicknamed the 7 minutes of terror. This is because if anything goes wrong, it will likely fail to get the rover safely to the surface. At the time of landing, it will take about 11 minutes for any signals to reach Earth. This is, of course, traveling at the speed of light, the fastest that we know how to communicate. EDL, entry and descent.
That's the best we've been talking about, 7 minutes de terreur. Donc les 7 minutes de terreur, vous assure que moi je les ai vécues, effectivement, c'était émotionnant. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on vient de voir là, c'est que les ondes électromagnétiques mettent 10 minutes pour parcourir la distance à ce moment-là entre Mars, dans la sonde, et la Terre. Et l'entrée sur Mars, c'est 7 minutes. Donc au moment où la sonde arrive dans l'atmosphère martienne, donc elle ionise l'atmosphère, les ondes électromagnétiques ne passent plus, et donc son dernier message, c'est de dire « j'entre dans l'atmosphère ». Mais au moment où vous le recevez, ce message, elle dit « je rentre dans l'atmosphère », en fait, elle est déjà
au sol,
ou posé,
ou éclaté,
ou écrabouillé sur la surface de la Terre.
Mars.
Donc, vous entendez, j'arrive sur Mars, en fait, oui, elle est arrivée, mais on ne sait pas dans quel état. Et donc, on attend 7 minutes, et vous allez voir. C'est bien les 7 minutes de terreur.
Let's follow this through step by step. About 10 minutes before entering the atmosphere, the cruise stage is detached because it's no longer needed. Small thrusters on the back shell will now be used to steer the spacecraft. Next comes atmospheric entry. The heat shield will protect the rover during this time.
Donc ça c'est la NASA et c'est donc Caltech à Pasadena.
Il
y a Blue Shirt.
Là-bas,
au fond, c'est Charles Pellet. Parachute très compliqué, ça réussit pas tout le monde. Ça, c'est l'invention de Curiosity. Première guerre mondiale, l'ascenseur partiel. Voilà l'ascenseur. Il se trouve sans casse. Voilà. C'était pas scientifique. Et en fait, on voyait la roue qui est le sol, donc on avait la preuve qu'effectivement, il était bien posé. Voilà, je crois qu'on a fini ce qu'on voulait vous raconter.
Ouais.
Et donc, on est à votre disposition pour toutes les questions. Oui, il y en a encore ça quand même.
Sur une dernière image.
Ah, oui, oui.
C'est pour ouvrir vos questions. Et ça, c'est le travail qu'on est en train de faire au sein de Framato. C'est une réflexion qu'on a sur qu'est-ce que serait la vision de Framato sur un réacteur spatial. Et voilà, donc je vous le présente en avant-première. Donc on va le montrer au WNS en image, hein, évidemment. Et voilà, alors on ne sait pas si on va le faire voler, mais en tout cas, comme Curiosity, on espère faire voler et être présent sur un des prochains vols, au moins sur les parties de l'isotope. Ah, merci.
Au point de vue taille, comme tu l'as dit, ça rentre sous la coiffe Ariane 6. Hein. C'est du 10 pour vous.
C'est, ouais. Donc, ça, c'est 4 mètres de diamètre.
C'est vraiment avec toute la sûreté qui est autour. C'est vraiment le cœur du réacteur. Le réacteur lui-même, c'est tout petit. Hein. Voilà, à vous.
D'abord, merci, conférence très intéressante. Je suppose vous avez des questions, je suppose, oui. Allez, la première, oui, d'accord, très bien.
C'est la première.
Toujours la plus difficile. Pourquoi pas utiliser des panneaux solaires pour l'énergie ?
On est sur un sujet très spécifique, je vous ai parlé de la Lune et de Mars. La Lune tourne autour de la Terre en 28 jours. Et donc, en fait, sa rotation elle-même est de 28 jours. Et en même temps, parce qu'elle augmente toujours la même phase, et donc la nuit sur la Lune dure 14 jours terrestres. La température sur la Lune, quand il fait nuit, il fait moins 150 degrés. Et donc aujourd'hui, ce que vous voyez sur la Lune, en fait, tout ce qui a été lancé sur la Lune, ça vit 14 jours. Donc si on arrive le premier jour, normalement, toutes les missions sont faites pour arriver le premier jour de jour, et puis de rester 14 jours. Alors il y a qu'une sonde qui a tenu un peu plus, qui n'était pas équipée de nucléaire. C'est une sonde japonaise. Et donc tout le monde s'est retourné vers les Japonais pour dire « Bon, comment vous avez fait ?» On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi ça a marché. Mais la deuxième nuit, elle était morte. Donc en fait, toute l'électronique ne peut pas tenir 14 jours à moins 150 degrés. La première réponse, c'est ça, c'est que sur la Lune, si on veut tenir 14 jours, il faut autre chose que des panneaux solaires. Si on veut aller sur Mars, la problématique, c'est les tempêtes de sable. Les panneaux solaires, c'est très bien, hein. faut pas qu'on remonte. Et d'ailleurs, j'ai vécu un peu ça, la compétition renouvelable. Et quand je suis rentré dans le spatial, j'étais étonné parce qu'il y avait aussi une compétition. Et le spatial a dit non, on ne veut pas de nucléaire parce que je dis non, mais on va faire un mix comme sur Terre. Et tout le monde, hein, ça passe. Mais et tout le monde a son utilité. Sur Mars, dans une tempête de sable. Et donc la problématique, c'est pour ça que les rovers, les premiers rovers martiens étaient munis de panneaux solaires. Et en fait, les rovers aujourd'hui martiens sont mis beaucoup plus longtemps grâce à des piles radioisotopiques comme je vous l'ai présenté. Si on veut faire beaucoup plus, il faut beaucoup plus de puissance. Et ensuite, sur l'exploration, c'est quand on va plus loin de Mars. Quand on va plus loin de Mars, le soleil il est beaucoup moins puissant. Donc il faudrait des panneaux énormes. Et donc pour ces raisons-là, ben, il faut une autre source d'énergie. Voilà, pour tout ce monde.
Une autre question.
En fait, donc, pour la réponse, la question est très bonne, elle est très pertinente, puisque encore maintenant, les gens essaient de travailler avec les deux. C'est que le panneau solaire doit avoir une limite qui est en deçà des besoins. Donc, de toute façon, ils ne feront pas l'affaire. Ils aident beaucoup, mais ils ne permettraient pas d'aller au bout, je dirais, du besoin.
Vous avez beaucoup parlé des piles radioisotopiques, mais ça a quoi comme durée de vie en fait, à peu près?
La durée de vie d'une pile radioisotopique, c'est le radiotope à l'intérieur. En fait, c'est l'expérience qui nous montre aujourd'hui ce qui a été lancé. La sonde Voyager a été lancée dans les années 70, début des années 70, je crois. Et le plutonium 238 a une demi-vie de 46 ans. 46 ans, donc ça veut dire que pendant 46 ans, on devrait quand même avoir entre jusqu'à la moitié de l'énergie initiale. C'est ce qui est vu aujourd'hui. Tout le reste est très robuste, c'est les thermocouples. Les thermocouples n'ont pas de vieillissement, en tout cas, on n'a pas vu beaucoup de vieillissement sur les thermocouples. Aujourd'hui, on travaille sur des piles avec de l'américium qui peut aller jusqu'à 400 ans. Après, c'est peut-être pas l'américium, c'est peut-être le reste des composants qui va s'abîmer plus. Mais bon, on est du coup sur plusieurs dizaines d'années. Sur les piles.
Pour se déplacer, on considère qu'il n'y a pas de frottement, mais est-ce qu'il n'y a vraiment pas de frottement dans l'espace?
Zéro, ça n'existe pas. On peut dire quand même que loin de la Terre, et en dehors des atmosphères des planètes, c'est vide. C'est vide, pas trop loin.
Alors j'ai une seconde question.
Même s'il y a certainement quelques minutes, pas là. Quelques jours.
Par rapport à Voyager, comment ça se fait qu'elle n'ait pas rencontré de la poussière ou un bout d'astéroïde ou quelque chose qui traînait dans.
Ça aurait été pas de chance quand même.
Par rapport à Voyager, comment ça se fait qu'elle ait traversé autant de distance sans le moindre obstacle?
Probabilité.
Elle a certainement reçu des micrométéorites, hein, comme la station spatiale qui en reçoit, mais elles sont. Les choses en question ne sont pas tous les dons. C'est-à-dire que ça passe à travers, ça peut éventuellement dégrader quelque chose, c'est remonté, c'est robuste. Hein. La comète Churyumov-Gerasimenko qui a été explorée par Rosetta, ça c'est peut-être en 2003, de mémoire. Elle a été lancée en 2003, elle est arrivée en 2014. Donc elle, c'est pendant 10 ans. Et elle devait se poser. Il avait un petit rover qui devait se poser sur la comète elle-même. Il s'est posé. C'est très accidenté la surface, donc il est tombé sur le côté. Et en fait, il a un peu rebondi. Alors qu'en fait, pour ne pas rebondir, il devait lancer des petites ancres,
harpons.
Oui, des harpons, mais envoyés par des charges de poudre. Et c'est ça qui n'a pas marché. Tout le reste a marché. Et ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu pour les différentes raisons qui sont soit éventuellement des dégâts causés par effectivement soit l'irradiation, tout simplement, l'irradiation, directement, soit l'éclatement des micrométéorites, c'est-à-dire des chocs, soit la température. Qui dans les deux sens, d'ailleurs, parce qu'au soleil, ça grille, c'est très très irradié, donc ça peut être destructeur, et de l'autre côté, c'est le vide, et donc c'est moins de 73 degrés, et regarde. Quoi. C'est très hostile, hein. Le milieu spatial est un milieu très hostile. Mais qui en est, je ne sais pas si vous avez dit dans son cas.
D'autres questions ?
Comme un des thèmes,
il y en a encore un autre.
Pour avoir plus de ressources sur Mars, par exemple, même si la Terre est 2 ans, on pourrait envoyer d'autres fusées, simplement avec quelle source de faire un seul et unique voyage, parce que ça demande trop logistiquement parlant.
Alors, ce qui est prévu, en tout cas dans les schémas de lancement, c'est évidemment de lancer des infrastructures avant, aussi des choses robotisées qui peuvent s'installer en autonomie. Donc, et sur la Lune, ça sera la même chose. Il y aura, en tout cas, s'il retourne sur la Lune, ce qui est prévu dans le programme Artemis, c'est la première fois où ils vont y retourner, ils ne vont pas y rester. Il y aura aussi beaucoup de cargo qui vont être envoyés. D'ailleurs, si vous regardez là, pour les réacteurs, c'est aussi des missions cargo, parce qu'il y aura beaucoup de matière.
D'accord, mais à ce moment-là, vous ne pourrez pas envoyer toute la technologie lumière avant au lieu d'y exploser les astronautes.
C'est l'objectif. C'est l'objectif d'envoyer un réacteur nucléaire avant qu'il se poserait. Après, est-ce qu'on va le démarrer? Là, aujourd'hui, personne ne dit comment ça va être fait. Mais c'est bien l'objectif d'envoyer de l'infrastructure avant. Hein.
Oui. Est-ce que, au niveau du développement de ces micro-réacteurs, est-ce qu'il y a des défis importants sur les matériaux, sur l'existence de ces matériaux, ou finalement c'est des applications qui s'inscrivent dans la vie de ce qu'on peut voir sur les SMR?
C'est une très bonne question parce qu'effectivement, dans l'imagination pouvoir aujourd'hui, il y a de tout, il y a des choses qui sont très révolutionnaires, demandant des matériaux, notamment à très haute température, sur lesquels il n'y a pas de qualification, il n'y a pas de codification, etc. Nous, celui qui nous intéresse le plus, dont je vais parler, il est banal. Les températures prouvées pour l'ensemble des matériaux les plus classiques. Le combustible, lui, est très évidemment avec le trio, c'est ça, vous le connaissez.
Oui, c'est exactement ça. Donc, notre objectif, c'est d'essayer de partir au maximum des choses connues, dans des référentiels connus et maîtrisés. Mais on voit qu'il y a une question de poids. Donc, soit on accepte, soit il faut. En fait, on travaille sur deux étapes, soit en disant on reste sur les matériaux connus, utilisés. Avec les gammes de température qu'on veut. Et puis après, on invite aussi, on essaye de développer des choses en rupture qui prennent beaucoup plus de temps. Mais il y a des questions en particulier sur les protections radiologiques, où là, c'est des poids très très importants. On est limité sur. En tout cas, il faut les choses lourdes pour produire radiologiquement.
Oui, la raison, c'est que nous, on est un peu sur le. De la dualité, c'est-à-dire de pouvoir l'utiliser aussi bien qu'à terre. Il y a des besoins à terre, notamment les MMR, ça hein. Mère aussi bien sûr, mais là on n'est plus dans la ligne des MMR. Il y a des besoins industriels et d'autres. Et donc, leur idée, c'est d'étudier quelque chose qui effectivement puisse avoir toutes ces applications-là, avec des questions évidemment de taille, avec des questions d'application si c'est sur terre, il n'y a pas de problème de chauffe froide. Le problème de l'espace, c'est qu'on a un problème de chauffe froide, pas sur terre. Mais la technologie elle, du proprement dit du réacteur peut être la même. Donc on essaie d'avoir quelque chose que vous verrez peut-être passer un jour.
Bonjour, moi j'ai une question plus financière, parce que vous parliez de carburant, mais le carburant universel ça va être l'argent, parce que sans ça du coup on ne pourra pas le faire décoller. Et là aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà chiffré à peu près le développement du projet et au résultat, est-ce que vous allez avoir toutes les ressources qu'il faut pour pouvoir le mener à bien s'il y a des difficultés ou quoi que ce soit?
C'est une très très bonne question. Hein.
Certains
dans le contexte actuel. Mais l'exploration spatiale, il y a beaucoup de sujets. Donc d'abord, les piles radioisotopiques. Déjà, quand on parle des piles radioisotopiques, c'est un point d'investissement. Il pourrait y avoir des usages différents et aussi des usages qui intéressent des questions de souveraineté. Et donc là, on vaut de l'ordre de quelques centaines de millions d'euros qui reste raisonnable. L'échelle pour pouvoir après développer ça et commercialiser. Ça, c'est une première réponse. Le réacteur, c'est autre chose, parce que le réacteur, c'est quand même un usage très, très spécifique. Mais une question de se dire est-ce qu'on y va, ça va être trop cher, etc. Après, c'est des questions aujourd'hui, les États-Unis, ils se la posent différemment. Eux, ils ont une compétition qui en marche, et donc ils veulent être les premiers à mettre un réacteur. Donc, ça va être peu. Quoi qu'il en coûte, on va voir comment ça se passe, hein, parce que ça peut varier très vite d'une année à l'autre aux États-Unis, de 0 à des milliards. Quand on parle de ça, globalement, développer un réacteur, il faut avoir un milliard d'euros, en tout cas, c'est les ordres de gros. Voilà. Donc, oui, c'est une question. Aujourd'hui, on n'en est pas là, on va se dire est-ce qu'on va le penser. Déjà, on est à se dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y arriver. Et puis après, on verra les étapes quand on arrive.
Bonjour. Artemis 3 devrait se poser sur la Lune d'ici la fin de la décennie. Est-ce que vous pensez pouvoir emmener le réacteur avant cette première mission ou pour Artemis 4 ou 5?
L'architecture, alors, il y a tout un rythme sur Artemis, mais ça ne sera sûrement pas dans les premières missions d'Artemis. Et puis déjà, il faut qu'il y ait un lander. Alors ce qui est bien, c'est que s'il y a le Starship, Elon Musk, il y a moins de questions de poids. Ça libère beaucoup la problématique du poids, parce qu'on pourrait embarquer plusieurs dizaines de tonnes d'un coup, ce qui pourrait être pratique. Mais ça sera beaucoup plus tard. Voir ça dans les années, en tout cas post-2040.
Bonsoir. Moi, je m'intéressais en fait à l'aspect réacteur. Dans les sous-marins nucléaires, est-ce que vous voulez faire un parallèle ou est-ce que vous avez profité de ce retour d'expérience qu'il y a dans les sous-marins nucléaires, puisque c'est quand même des réacteurs à échelle réduite?
Alors, on n'est pas sur les mêmes technologies et sur les mêmes températures. Donc, les réacteurs les sous-marins nucléaires sont des réacteurs à eau pressurisée. Mais pas du tout dans ce cadre-là. Pourquoi? Parce que il faut gérer. On est beaucoup plus à l'aise avec une circulation de gaz qu'une circulation de fluide. Et puis l'eau, je ne pense pas qu'elle va bien se comporter quand on sera en microgravité. C'est pas mal ça. C'est la question aussi des sources froides. On a dit qu'on voulait monter en température. Donc on se dirige vers plutôt des réacteurs à haute température, comme on l'a dit, hein, qui existent par ailleurs, donc qui eux pourraient être utilisés et puis être encore plus compacts. Donc on cherche quand même aussi des puissances qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on a sur, bord, sur les chauffements au parking. En revanche, Technicat Cato participait à l'époque à ces réflexions aussi, un peu moins, peut-être qu'ils vont y revenir. Donc, Cato, qui est responsable de Chaudière, embarqué.
Je voudrais me demander plus sur le micro que sur les smalls. Il y a le directeur du monde, les smalls, l'origine de puissance des smalls, Grégoire a dit. Nous, on est dans un programme qui est bien inférieur. Et notamment pour tout ce qui est application terrestre, hein, vous savez, quand on est lui, on perd la compétitivité, c'est bien le problème. Faire des smalls, des larmes mobiles, de façon à faire un grand nombre et regagner par l'effet de série, par l'effet de série, le fait qu'effectivement on produit peu de puissance et donc c'est coûteux. Donc si vous voulez, dans cette optique-là, c'est pas des préoccupations des SMR navals. Donc en tout cas, l'expérience, je peux vous dire. J'ai travaillé chez Cato pendant 8 ans, donc on intègre tout ce qu'on peut intégrer de la connaissance des petits réacteurs, notamment des réacteurs qui doivent résister à beaucoup de choses. Un réacteur de doit avoir des performances de résistance à des agressions bien plus élevées que dans le domaine civil. Donc cette expérience-là, elle est intégrée. Et ce qu'on ne se pose pas directement.
Vous aviez parlé d'utiliser un réacteur nucléaire pour alimenter le module, pour se propulser, et le même modèle pour alimenter une future base. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser juste le même réacteur et faire d'une pierre deux coups?
Oui, je crois qu'on l'a abordé rapidement, mais notre objectif c'est bien ça. Les niveaux de puissance sont un peu différents. Mais c'est bien ça, c'est quand à chaque fois qu'on travaille là, sur ce que vous voyez c'est de se dire et si on l'embarque, qu'est-ce que ça serait, quelle serait la différence. Mais c'est bien ça, c'est d'avoir un module qui puisse être embarqué ou posé.
Je vais ajouter quelque chose qu'on n'a pas dit, qu'on ne peut pas tout dire, pourtant en partie, c'est que. Il y a une différence entre la propulsion électrique et la propulsion thermique. La propulsion électrique, comme a dit Grégoire, c'est une petite poussée mais pendant très longtemps. Alors que l'autre, c'est vraiment le paquet d'énergie que vous balancez, effectivement, avec donc une impulsion extrêmement, enfin, une poussée extrêmement forte. L'intérêt de la poussée extrêmement forte, c'est que vous voulez faire des rapides changements d'orbite, si vous voulez, l'agilité en orbite. Que ce soit autour de la Terre ou autour de la Lune, pour diverses raisons, donc des changements rapides d'orbite, vous avez besoin en fait de la propulsion nucléaire thermique. Oui, c'est bien ça, la propulsion thermique, voilà, pas électrique. Et ça, c'est le fait de la différence. Pour le voyage, le thermique, il faut faire les deux. Mais pour de l'agilité en orbite, il faut le nucléaire thermique.
Sur l'historique, il faut savoir qu'il y a eu des lancements hein, de réacteurs, de tout petits réacteurs, qui étaient de 3-4 kW électriques, un américain, et puis il y avait 25 réacteurs russes dans des satellites, donc des satellites de surveillance. Donc, mais c'est un peu la même technologie que vous voyez là, encore plus petit, avec juste le niveau d'enrichissement, donc ce dont on n'a pas parlé, mais parce qu'on veut se rapprocher de ce qu'il y a sur Terre. Mais c'est des très hauts niveaux d'enrichissement de l'uranium.
C'est par rapport à la trajectoire. J'ai eu l'impression qu'en fait, on envoyait l'objet et qu'on courait derrière Mars pour essayer de le rattraper. Mais si on envoyait Mars, l'objet allait à sa rencontre directement. Est-ce que ce serait pas plus simple?
Je pense que c'est l'image là, qu'on a faite. Je ne sais pas sur les trajectoires martiennes. Ouais. On utilise la Terre comme aussi une foule. Donc il va donner une vitesse initiale à l'objet. Donc je pense que ça a été ça a été vu toutes les trajectoires. La physique, en tout cas, et la mécanique des corps célestes,
c'est quelque
chose qui est très, 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 très bien maîtrisé, très connu et qui est très prédictible. Et donc, je pense que là, c'est aussi une image. Peut-être que je pourrais vous donner toutes les trajectoires possibles de Mars. Parce qu'en plus, quand on veut faire un aller-retour, on sera sur quelque chose d'un peu différent, avec différents scénarios. Mais je pense que là, ce qu'on vous présente depuis moi, c'est la trajectoire, en tout cas la plus courte, avec la vitesse de. D'accord, merci.
Est-ce que vous avez des attentes ou de l'espoir sur l'évolution de l'énergie dans la conquête spatiale?
Vous voulez dire des espoirs par rapport à quoi? Par rapport,
dans l'évolution, que ce soit dans des questions de rendement, des questions de taille?
Aujourd'hui, en tout cas, c'est le spatial qui nous a apporté les panneaux solaires. Avec un développement et ça marche, et tout ce qui est en orbite, ça marche vraiment. En revanche, tous ceux qui, en tout cas toutes les équipes qu'on a rencontrées et toutes les entreprises qui travaillent dans le spatial sont en attente de solutions, un peu parce que ça reste une problématique parfois les panneaux solaires. Et c'est sûr que quand on parle de sobriété sur Terre, dans l'espace, on est très très fort en sobriété. Ils peuvent faire tourner des systèmes pendant des années avec très très peu d'énergie. C'est une démonstration de sobriété. Mais je suis sûr que si on leur apporte un peu plus d'énergie, on va trouver beaucoup de choses à faire en plus. Et en particulier aussi, donc ça c'est sur la partie civile et sur la partie militaire aussi. Surtout ce qui est surveillance. De plus en plus, on a besoin de plus d'énergie. Donc les attentes, aujourd'hui on est limité sur les panneaux, mais en orbite on arrive à avoir l'énergie qui nous suffit.
D'autres questions? Oui.
Merci. On est dans un monde où il y a beaucoup de révolutions. Allô? Ouais. Merci. Donc voilà, l'évolution technologique est vraiment exponentielle et pour l'instant on parle beaucoup d'intelligence artificielle. On ose espérer que dans 5-10 ans on ait des robots, que ce soit humanoïdes ou type Gravity ou enfin, vraiment des robots un peu plus futuristes et qui remplacent complètement les humains. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui parler d'exploration spatiale humaine qui soit vraiment à but scientifique et pas simplement un fantasme de l'humanité,
ou de certains.
En tant que scientifique, je pense que vous avez raison. Mmh. On pourrait très bien explorer Mars sans la présence de l'homme. Faire l'essentiel, il me semble. Donc ça c'est une chose. Ce à quoi après les États, certains États courent, c'est bien quelque part, de la visée politique qui consiste effectivement à mettre un astronaute là où on veut. Et l'astronaute devient un héros. Donc ça, ce sont des visées politiques, mais qui effectivement ont toutes les retombées politiques que l'on connaît. Et sinon, si on regarde un strict point de vue scientifique, je pense, comme vous, que, et notamment avec les développements dont vous parlez, qu'on peut déjà faire énormément de choses en termes d'exploration et de connaissance avec des robots. Gregor, peut-être un avis différent.
Non, moi je suis d'accord. Je ne connais pas les mots, mais clairement c'est un sujet qui, à mon avis, s'est posé tout le temps. Cette conquête. On a vu la puissance que ça a eu du premier pas de l'homme sur la Lune. Et donc, d'ailleurs, ça a stoppé toute la partie conquête lunaire, puisqu'après, ça a quand même passé pendant des années autour de la Lune. Il n'y a plus d'intérêt. Mais que je vais scientifiquement et aller rechercher des traces de vie sur Mars, ce qu'il faudrait, c'est envoyer le petit robot et réussir à envoyer le petit robot qu'on vous a montré, là, le robot européen. Et ça serait bien. On pourrait aller faire un trou jusqu'à 2 mètres de profondeur et donc aller plus bas que ce qui n'avait jamais été fait. Et donc, parce que toute la surface de Mars a reçu beaucoup de radiation cosmique. Et donc, forcément, tout est irradié. Et donc, à moins de 2 mètres, on pourrait essayer de trouver des traces de vie. Donc, moi, je suis d'accord avec vous. Après, c'est une autre portée et d'autres considérations.
Par rapport à la question des déchets radioactifs qu'on rencontre souvent sur Terre, est-ce que ici la petite taille donc, des réacteurs permet de s'affranchir donc, des déchets radioactifs sur Mars?
On ne s'affranchit jamais des déchets radioactifs. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. En revanche, il n'est pas engagé là, sur ces tailles de réacteurs et sur la quantité de cœur d'aller les récupérer et les ramener. Donc, en tout cas, dans le cycle de vie, il faudra bien considérer qu'est-ce qu'on fait. Et en tout cas, il faudra, à minima, que ces cœurs ils soient conservés quelque part quand on est sur un as. Mais il faudra, dans l'analyse, le prendre en compte. Mais il n'est pas envisagé de les ramener sur Terre, surtout que ce serait beaucoup plus dangereux de les ramener sur Terre et les faire re-rentrer dans l'atmosphère que de les laisser.
La question est déjà posée, hein. C'est-à-dire qu'on réfléchit déjà à ce qui se passerait. Comme vous l'avez vu, on n'est pas encore en train d'en construire un sur la surface de la Lune, ça sera pas sans doute le premier, mais on est déjà en train de réfléchir et qu'est-ce qu'on fera après et de comment on mettra au-delà et qu'est-ce qu'on fera effectivement, comment on va démanteler, qu'est-ce qu'on va les déchets, etc. Donc la question, effectivement, n'est pas ignorée. Mais elle n'est pas encore effective.
Là, vous voulez étudier la surface de la Lune avec des réacteurs nucléaires. Est-ce que vous pensez aussi essayer d'équiper des stations spatiales avec des réacteurs on a par exemple la station la station lunaire pour Artemis qui servira de passerelle pour aller sur la surface. Est-ce que vous pensez l'équiper un jour de réacteurs nucléaires ou pas?
On revient sur le sujet qu'a évoqué votre collègue sur l'utilité. C'est s'il y a du soleil et qu'on a assez de soleil, finalement, avec la pole solaire, on sera très content et ça suffira et on n'aura pas besoin d'aller plus loin. La question, c'est que quand on est en orbite autour de la Lune, on tourne assez vite pour avoir souvent du soleil. Quand on est en orbite autour de la Terre aussi, même si il y a parfois quelques usages, en fait, il va falloir trouver des usages très pertinents. Donc non, c'est pas prévu, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, comme on l'a vu sur le réacteur.
En fait, si on veut faire de l'énergie en plus du panneau solaire ou à la place, il y a le réacteur, je ne sais pas si vous pensez à ça, mais il y a aussi, je rappelle, les RPS, les radioisotopes power source, qui eux-mêmes sont capables de faire du gaz et des gros RTG comme il y a à faire. Donc c'est la il y a ceux qui chauffent, les RHU, radioisotopes, heater unit, et puis il y a les RTG qui sont thermogénérateurs, qui font du courant électrique. Les deux sont indispensables pour les besoins, je dirais, d'un satellite ou d'une station, comme vous dites. Mais on peut déjà faire beaucoup de choses avec les deux RHU et les RTG, au-delà des panneaux solaires. Un gros RTG, c'est trop. D'abord, on peut mesurer, je dis un gros RTG, donc on prend des 10 si on veut, hein. C'est bien ce qui se passe dans certains cas.
On peut monter à quelques centaines de watts, jusqu'au kilowatt sur un gros RTG. Donc ça permet surtout d'être utilisé en backup quand il y a une obscur, quand les panneaux solaires sont obscurcis. C'est ce qu'il regardait souvent, hein, parce qu'aujourd'hui, les panneaux solaires, bah, la problématique, c'est si on cache le panneau solaire avec autre chose, ce qui peut arriver, ou si le panneau solaire ne s'oriente pas bien, bah, il ne va plus alimenter.
D'autres questions? Non. Merci pour ces questions. Je laisse.
Moi, je veux simplement vous remercier pour toutes vos questions. C'est très bien, très content que vous ayez posé toutes ces questions. J'espère que ça vous a intéressé. Donc, bonne soirée. Merci encore de votre attention. Merci à tous d'avoir.